Numéro 2, suite de l'étude sur les 10 commandements.
Nous n'allons pas pouvoir faire l'étude détaillée des 10 parce que nous n'aurons plus le temps, mais nous allons faire ce que nous allons pouvoir. Nous en avons parlé d'une manière assez générale et je voudrais cet après-midi examiner les deux premiers commandements. Le premier commandement, tout d'abord, est situé au verset 3. Mais nous allons relire le commencement, versets 1, 2 et 3, du chapitre 20 de l'Exode. « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Examinons d'abord cela. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, c'est ce qui découle du préambule d'abord, où Dieu s'affirme, l'Éternel s'affirme, comme le Dieu unique, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir de la maison d'Égypte. » Et du sens du mot « Yahvé », qui est traduit ici par l'Éternel, « Yahvé ». Le sens du mot « Yahvé », donc, nécessairement, déjà, détermine le premier commandement. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » On a pu traduire dans d'autres versions « en dehors de moi » ou encore « en ma présence » ou encore « sous mes regards ». Mais cela ne limite pas du tout cette interdiction qui est déjà formulée, « tu n'auras pas d'autre Dieu », cela ne la limite pas, comme d'aucuns mal avisés ont voulu le prétendre, en disant « ah ben c'est quand on est devant l'Éternel qu'il ne faut pas avoir d'autre Dieu, mais si on est loin, on peut peut-être en avoir, n'est-ce pas ?» Eh bien, c'est absolument stupide. L'Éternel, en effet, discerne tout, pénètre les cœurs et sonde les reins, et par conséquent, il est partout. Et l'on ne peut pas, nulle part, où que ce soit, ne servir d'autres dieux et avoir d'autres dieux. Nous pouvons dire aussi déjà que de ce premier commandement découlent les suivants. Comme conséquence du premier, les 9 commandements, en somme, il y a un commandement qui est en tête, là, et de ce commandement découlent 9 autres commandements comme des conséquences et des implications. Toute vie humaine est placée devant la face de Dieu, devant la face d'un Dieu unique qui voit tous les fils de l'homme, tous, la Bible l'affirme, qui est le libérateur d'Israël. Et cela est rappelé dans le verset 2, « Qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude ?» C'est important, il faut garder ça en mémoire. Par ce premier commandement, l'Éternel, qui a rappelé la délivrance de l'Égypte, entend délivrer Israël aussi des autres servitudes. Les autres servitudes. Dieu l'a délivré de la maison de servitude. Mais, alors, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Attention, les autres dieux seraient des servitudes. Alors, l'Éternel veut par conséquent tenir son peuple en dehors de toute autre servitude. Les servitudes que seraient les faux dieux, les pseudo-dieux, qui, eux, ne délivrent jamais, mais qui enchaînent. Le Dieu, l'Éternel, le Dieu vrai, délivre, mais les faux dieux enchaînent. Ils enchaînent les cœurs dans une piété superstitieuse. Et l'on a vu quelquefois les enchaînements aller si loin qu'il y avait perte de vie. Les enchaînements, mes amis, et les enchaînements modernes, nous aurons tout à l'heure l'occasion d'en parler un peu, les enchaînements modernes, n'est-ce pas, peuvent aussi bien nous conduire au pire. Donc c'est un Dieu qui délivre et qui ne veut pas d'autre servitude pour son peuple. En s'attachant au Dieu unique et vrai, Israël restera donc le peuple délivré. Il faut qu'il soit un peuple libéré. En Égypte, les Israélites avaient partagé pas mal de divinités avec les Égyptiens. Cela se trouve révélé dans l'histoire sainte, dans la Bible. Il y avait, en effet, en Égypte, des divinités partout, comme dans les autres nations, bien sûr. Et par conséquent, s'il y avait des divinités, c'est qu'il y avait des peurs, c'est qu'il y avait des craintes, c'est qu'il y avait des obsessions superstitieuses concernant le soleil, concernant la lune, concernant les astres, concernant un arbre, concernant un animal, un peu tout, la foudre, n'est-ce pas, un peu tout. Il y avait des peurs, des craintes. Alors chaque fois que on craignait quelque chose, qu'il y avait la crainte de quelque chose ou de quelqu'un, alors on y mettait une divinité. Et mieux, quelquefois, le soleil, par exemple, à l'égard duquel il y avait aussi une certaine crainte, eh bien, alors on en faisait de lui carrément un dieu, une divinité. Tout cela, bien entendu, toute cette idolâtrie, ces craintes, paralysait l'homme et le dominait. Voilà, n'est-ce pas, les servitudes que l'Éternel ne veut plus du tout pour son peuple. Plus de servitude. Le premier commandement, en somme, volatilise toute croyance étrangère à l'Éternel Dieu. Israël est affranchi des faux dieux et, bien entendu, de tout ce que comporte le service de ces faux dieux, les religions, quelles qu'elles soient, bien entendu. D'autre part, l'Éternel qui se révèle à son peuple d'Israël n'asservit pas, lui, son peuple. On pourrait dire tous les autres dieux sont proscrits, à l'exception du seul vrai Dieu, mais le seul vrai Dieu ne va-t-il pas, lui, se présenter aussi comme un Dieu qui tient sous contrainte son peuple? Eh bien, non. Il faut écarter cette pensée-là, parce que lui, il n'asservit pas. Il n'asservit pas parce qu'il est le Créateur. Il n'asservit pas parce qu'il est la source de la vie. Il n'asservit pas parce qu'il est amour. Il œuvrera toujours, au contraire, dans le sens d'un affranchissement. Toujours Dieu agit dans le sens d'un affranchissement que sa puissance et ses bénédictions garantiront assez fidèle. Et pour cela, vous n'avez qu'à voir le Deutéronome. N'est-ce pas? Le Deutéronome qui contient, vous le savez, à la fin, le chapitre des bénédictions et le chapitre, au contraire, des menaces, n'est-ce pas? Bénédictions et malédictions. Eh bien, nous voyons par exemple, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénis, ta corbeille et ta huche seront bénis, tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ, l'Éternel te donnera la victoire, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi, tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux. C'est la grande libération. N'est-ce pas? Voyez, donc l'Éternel, n'est-ce pas, n'est pas lui-même un Dieu qui asservit le peuple parce qu'il agit toujours par la puissance qui est la sienne, comme il est le vrai Dieu, le seul, il agit dans le sens toujours d'un affranchissement. Et c'est bien ce que Jésus, car nous savons que sur le Sinaï, l'Éternel, nous l'avons déjà dit, est la parole de Dieu qui se manifeste, et c'est celui que nous appelons le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, Jésus-Christ, lorsqu'il vient là, en s'incarnant, pour fonder l'Église, il vient aussi, lui, en affranchissant. Et il dit aux Juifs qu'il les affranchit. Ma parole vous affranchit. Il vient aussi, lui aussi, en affranchissant. Et dans l'Église, l'action de Jésus est une action d'affranchissement. C'est pourquoi, n'est-ce pas, il faut considérer toutes les bénédictions qui doivent nous venir par Jésus-Christ, qui est le oui et l'amen sur toutes les promesses de Dieu. Maintenant, c'est dans un lien avec le Seigneur Jésus-Christ que le croyant se sentira libre de la peur, comme de toute appréhension, et qu'il goûtera la paix et la joie en lui. Goûter la paix par le Saint-Esprit, c'est le royaume de Dieu, la paix et la joie par le Saint-Esprit, le royaume de Dieu en soi. Eh bien, goûter cette paix et cette joie, n'est-ce pas un affranchissement? La paix intérieure, la paix parfaite, la joie parfaite de Jésus-Christ, mais c'est un élargissement, un affranchissement. Notez une chose, voyez, n'est-ce pas, nous faisons non pas artificiellement, mais parce que cela doit se faire, tout de suite, n'est-ce pas, un saut du Sinaï, en quelque sorte, à la montagne des Béatitudes, ou si vous voulez, nous faisons, n'est-ce pas, de ce temps du peuple d'Israël, nous allons au temps de l'Église. Et par conséquent, nous transportons un peu les 10 commandements dans l'Église. Il y a des gens qui frémissent quand on dit cela, hein, dans l'Église. Mais nous commençons à voir déjà que cet affranchissement, s'il était donné au peuple d'Israël, mais il est encore plus donné à l'Église, encore tout à fait donné à l'Église. Et nous voyons par conséquent déjà s'amorcer une chose, c'est que, attention, le décalogue, qui est la partie essentielle de la loi, hein, le décalogue, la loi, si vous voulez, appelons-la ainsi, se trouve accomplie en Jésus-Christ. Attention à cette idée-là, n'est-ce pas? Elle est infiniment précieuse, nous la reprendrons. Donc, ce premier commandement, déjà lui-même, il exprime la grâce. Puisqu'il affranchit, puisqu'il tient le peuple dans un affranchissement, il exprime la grâce. Il contient l'Église où il est accompli. Il contient l'Église. Et si l'homme est tenu hors de toute servitude par le Dieu vivant auquel il s'attache, il a donc un avenir avec ce Dieu qui l'affranchit. Ce Dieu ne l'affranchit pas pour rien. Il a un avenir avec ce Dieu qui l'affranchit. Et s'il est tenu, retenu, affranchi de tout, la mort elle-même, avec sa terrible captivité, devra s'écarter. Vous voyez comme on voit déjà, n'est-ce pas, dans ce premier commandement, venir déjà, n'est-ce pas, l'éternité. S'ouvrir déjà l'éternité. Le salut éternel. Le premier commandement contient donc, on peut l'affirmer, l'or du salut éternel. Vous voyez comme la parole de Dieu est riche, n'est-ce pas, parce qu'elle est de Dieu. On comprend pourquoi l'Éternel était tant courroucé lorsque Israël, oubliant qu'il était libéré, saisissait les occasions de revenir à des Baals et autres faux dieux, Astarté, etc. L'Éternel était courroucé, et alors par ses prophètes, évidemment, il accablait le peuple de menaces et de châtiments. On comprend cela. C'était comme l'annulation de toute son œuvre pour son peuple. Le peuple oubliait simplement qu'il était libéré. Il n'avait plus la foi suffisante en cette libération. Et nous arrivons au second commandement. Le second commandement qui occupe les versets 4, 5 et 6. Alors, nous lisons. Versets 4, 5 et 6. « Tu ne te feras point d'image taillée. » ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Cette fois-ci, l'interdiction est jetée sur les images taillées ou statues. Il y a la Bible de Émile Hostie traduit les statues. Point de statue, point d'image taillée, de représentation quelconque. Dans différentes versions, on a à la place de représentation quelconque, ni quoi que ce soit qui ressemble aux choses, ni aucune forme qui ressemble, ni aucune figure qui ressemble. Peu importe, vous voyez, n'est-ce pas, l'idée reste la même, représentation ou quoi que ce soit qui ressemble, aucune forme, aucune figure, c'est la même chose, c'est toute l'iconographie qui est là, sous coup d'interdiction. Toutefois, toute crainte respectueuse et filiale, tout service de l'homme sont réservés à l'Éternel. Réservés à l'Éternel lui-même, sans aucun intermédiaire représentatif. Hors de l'Éternel, et on peut dire maintenant hors de Jésus, il n'y a rien de divin, rien qui ait des droits et des pouvoirs sur l'homme. L'homme est délivré, il n'y a rien qui ait de pouvoir. Par conséquent, Dieu lui-même ne peut pas être représenté, ni d'autres choses, quelles que soient ces choses. Étant donné que l'idolâtrie représentait les choses les plus diverses. Rien, absolument rien, qui ait des droits et des pouvoirs sur l'homme. Tel est ce que déclare l'Éternel Dieu en disant « Je suis un Dieu jaloux », ce qui veut dire « exclusif ». On peut penser que toutes ces images taillées et ces représentations sont de notre temps en grande perte de vitesse et en voie de presque complet abandon, et que par conséquent le second commandement est en train lui-même de perdre son objet. Les images taillées, les statues, les représentations, tout ça, ça tend à disparaître. Bien, alors beaucoup de dire, oh ben, le second commandement maintenant, il a été pour des temps passés, mais aujourd'hui, il n'a plus aucune nécessité. C'est bien entendu une erreur. La parole de Dieu, elle n'est pas dite pour un temps, et elle sait à quoi elle sait ce qu'elle vise, elle sait pourquoi elle est donnée, et par conséquent, elle sait très bien qu'elle aura son utilité jusqu'à la consommation des siècles. Le commandement qui nous intéresse poursuit la délivrance du peuple. Il le libère des représentations de Dieu ou de toute représentation qui introduirait un retour à l'idolâtrie. Il ne faut par conséquent pas représenter Dieu lui-même, ni l'imaginer d'aucune manière. Ne pas l'imaginer non plus, car dans image, dans imagination, il y a image. Et d'autre part, l'on sait que presque toujours, l'image ou la statue ont fini par être confondues avec la divinité représentée. Au point que, en effet, comme le commandement nous le montre, des gens viennent se prosterner devant des statues, les baiser les pieds, par exemple, n'est-ce pas, pleurer sur elles, etc. La statue finit par presque prendre la place de la divinité représentée. Et devant cette tendance, le commandement dit « Tu ne te prosterneras pas devant elle, tu ne les serviras pas. » C'est que dans la nature humaine, c'est constamment manifesté le besoin de rendre visible et concret le Dieu qui est invisible. Constamment, n'est-ce pas, il y a eu ce besoin. Je ne vais pas épiloguer sur ce besoin, mais il est bien connu. L'homme a besoin, lui, du concret. Sa foi, d'ailleurs, baisse, et sa foi ne lui suffit plus. Alors, avoir un Dieu où, par exemple aussi, Jésus-Christ, n'est-ce pas, le Fils de Dieu, qui a quitté cette terre, il a été vu sur cette terre, mais il n'y est plus maintenant, c'est le Seigneur, l'Esprit. Alors, le voir seulement en esprit, comme l'Épître aux Hébreux nous y invite, portez vos regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, c'est quelque chose qui répugne souvent à l'homme. Il préfère, lui, la vue, le concret. Et c'est constamment cela qui va réintroduire le mode des représentations ou des images. Eh bien, Dieu veut, lui, que nous le connaissions par la foi et selon l'amour uniquement, exclusivement. D'abord, il y a les représentations, n'est-ce pas, de choses ou d'êtres, parce que dans le mot « chose » contient aussi des êtres. Alors, les choses ou les êtres extérieurs à lui, n'est-ce pas, il y a cela. Bon, ça, ce serait l'idolâtrie. Mais en ce qui le concerne, lui, personnellement, ou en ce qui concerne maintenant Jésus-Christ, eh bien, là aussi, il y a une proscription de toute représentation. Pourquoi ? Essentiellement parce que Dieu veut que nous le connaissions par la foi. Et c'est ce qui nous est dit dans le Nouveau Testament du Seigneur Jésus, n'est-ce pas ? Nous ne le connaissons plus selon la chair. Et il ne faut plus le connaître selon la chair. Et il ne faut plus le connaître, par conséquent, même dans une représentation qui nous montrerait la chair, n'est-ce pas ? C'est-à-dire la personne physique de Jésus, n'est-ce pas ? Il ne faut plus. Nous ne le connaissons plus de cette manière. Le Seigneur, c'est l'Esprit, et il faut le connaître par le moyen de l'Esprit. C'est ce que veut Dieu, et c'est ainsi que l'on pourra faire réaliser des progrès, c'est ainsi que le Seigneur pourra élever ceux qui ne le connaissent et n'entendent, le connaissent par obéissance, que par la foi et selon l'amour. Et Dieu se réserve, lui, de se révéler au cœur de ceux qui le cherchent uniquement par la foi et selon l'amour. Il se révèle au cœur. Et n'oublions pas que le Seigneur Jésus-Christ révèle le Père. L'avons déjà vu, cela, n'est-ce pas ? Le Père, lui, a une sorte de connaissance première par le moyen de laquelle il envoie les âmes humbles au Fils. Et le Fils les sauve. Et le Fils leur révèle le Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est lui seul qui révèle le Père. Mais le Père peut se révéler très profondément au cœur humain, au cœur du croyant, se révéler même d'une façon telle qu'il y a vraiment un contact d'une nature spirituelle, mais un véritable contact avec Dieu. Et c'est ce contact-là, unique, par voie d'esprit, c'est uniquement celui-là que veut Dieu et aucun autre. Aucun autre. Il faut bien comprendre cela. Rien, par conséquent, n'est à rechercher dans le domaine concret. Remarquons ceci, c'est que les images de Dieu, ou de Jésus-Christ, ou des personnes, des personnages bibliques, personnages évangéliques, les apôtres par exemple, Eh bien, ces images ne sont pas toujours matérialisées, mais elles se construisent aussi dans le seul domaine de la pensée. Et elles sont alors l'œuvre non plus des peintres ou des dessinateurs, mais elles sont, ou des sculpteurs, mais elles sont l'œuvre des écrivains, des philosophes, des théologiens, et quelquefois aussi des visionnaires. Et ces images, qui sont en somme des évocations, des définitions, des descriptions, eh bien, elles sont fausses, et elles sont créées, elles aussi, elles ont créé, elles aussi, une forme d'idolâtrie. Car en effet, il y a eu des chrétiens, et il y en a encore, qui s'attachent à certaines conceptions. Alors, je vais les appeler conceptions, qui ne sont pas leurs faits, mais qu'ils ont connu par des lectures ou par transmission de bouche à oreille, et à certaines conceptions de Jésus-Christ. C'est ainsi que Jésus-Christ, n'est-ce pas, a été tant de fois et de diverses manières entièrement déformé en ce qu'il est, en sa personne. Il y en a même qui ont vu qu'il n'était pas du tout venu en chair. C'est pourquoi Jean dit, n'est-ce pas, que ceux qui ne croient pas que Jésus est venu en chair sont des antichrists. Il y en a qui disaient, il n'est pas venu en chair, c'est pas possible, il est bien la parole de Dieu, mais il n'est pas venu en chair. Ils refusaient l'incarnation. Alors, c'était une conception. Ils en ont fait, ils ont fait par conséquent un faux Christ dans la conception, dans l'idée. Et ce faux Christ est devenu une idole. Et il y a eu une secte qui est née de ce côté-là. Puis il y en a d'autres, au contraire, qui l'ont vu homme, mais qui ont nié sa divinité. Alors, voilà encore un faux Christ, voilà encore une fausse représentation de Christ. Et puis, il y en a qui ont pris les deux, mais qui ont introduit dans l'idée qu'ils se faisaient, qu'ils voulaient répandre de Christ, des choses à eux, ils ont mis de l'homme dedans, si bien qu'ils ont fait, eux aussi, une représentation tout à fait fausse. Toute représentation est fausse. Il faut laisser l'Écriture. Et il faut laisser le Saint-Esprit nous révéler Dieu et même nous révéler Jésus-Christ. En somme, l'Éternel veut que l'homme n'intervienne d'aucune manière pour le représenter ou pour représenter les choses qui sont en haut dans les cieux, choses, alors je dis choses ou être, dans l'Écriture, chose, s'applique aussi bien à des choses inanimées qu'à des êtres. Les choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que terre. Même les choses du séjour des morts ou les démons, rien ne doit être, ne faire l'objet d'une représentation quelconque. Même, je dis bien, même dans la conception, dans l'idée, simplement, par une description écrite. Dieu est jaloux. Il est jaloux, exclusif, pour le bien des hommes libérés, afin de les retenir dans la liberté et dans la vérité, et afin que leur cœur ne se détourne pas de lui, vers des affinités diverses, car lui seul peut assurer et maintenir la liberté et la lumière de la vie. Et c'est pourquoi il est exclusif, non pas parce qu'il serait férocement jaloux de son privilège, mais c'est parce que l'homme qui se détourne tant soit peu de lui, même pour une part seulement, qui partage, par exemple, et Jésus a montré que le partage était une chose absolument impraticable d'une façon permanente, n'est-ce pas? Il y a toujours un balancement d'un côté ou de l'autre. On tombe d'un côté ou de l'autre. En général, on tombe du mauvais côté. Hein? On abandonne Dieu et on prend le faux maître, hein, le mauvais maître. Mais Dieu, n'est-ce pas, veut que on l'ait, lui, pour Dieu, pour maître, lui seul, parce que lui seul peut faire du bien à l'homme. L'homme qui se détourne de lui est un homme qui commence à se perdre. Est un homme qui va vers la mort, vers l'empire de la mort. Et il n'y a que lui qui peut assurer la vie. Alors il est jaloux. Il est jaloux et la jalousie est un attribut de son amour. Il est exclusif. Il faut comprendre ces choses. Lorsque l'homme se prosterne devant Dieu, il le fera librement et sera en face de celui qui est la source de son bonheur et de sa liberté. Et même l'image de Dieu en l'homme. L'homme a été fait à l'image, à la ressemblance. Alors, le Seigneur Jésus-Christ étant venu, ceux qui lui appartiennent ont en eux une image qui se forme. Je ne dis pas qu'elle est formée tout de suite d'un seul coup, n'est-ce pas? Puisque Paul nous dit bien que concernant les Galates, il aspire à ce que l'image de Dieu soit le plus vite formée en eux. Mais nous avons tous été prédestinés à porter l'image de Christ premier-né d'entre plusieurs frères. Eh bien, cette image que Jésus établit en nous, c'est l'image de Dieu, car il est Dieu. Son image, c'est l'image de Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est l'image de Dieu qu'il rétablit en nous. Et en somme, il nous ramène à ce point qui est antérieur à l'événement de la chute. Il nous ramène avant la chute. Il répare, en somme, cette image qui s'était brisée. Eh bien, l'image de Dieu en l'homme, elle-même, reste insaisissable. Elle reste mystérieuse. Et cette image qui est celle de Jésus, qui est celle de Dieu, se verra et ne se verra que dans le seul mouvement de la vie nouvelle. Et elle se verra lorsque Jésus paraîtra, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui. Mais pour l'instant, cette image se voit dans le témoignage d'une vie qui lui est consacrée. Mais on ne peut pas l'avoir, si vous voulez, totalement, entièrement. Elle est mystérieuse, elle a son mystère, il faut qu'elle reste dans son mystère. Eh bien, à plus forte raison, n'est-ce pas, Dieu ne peut-il être représenté en image. Il faut que nous parlions aussi à propos de ce second commandement, de quelque chose qui s'apparente à lui d'une façon absolument indiscutable. Notre civilisation est celle de l'audiovisuel. Et ce à quoi nous assistons, c'est au développement inconsidéré de l'image. Sur journaux, livres, revues et toutes sortes de choses, affiches. L'image est de plus en plus colorée, belle, n'est-ce pas, extraordinaire, étant donné les procédés technologiques. Eh bien, dans notre civilisation, l'image prolifère, et on peut dire qu'elle y est désordonnée, abusive, agressive, irritante. Il y a quelque temps, il y avait eu une certaine levée de boucliers contre certaines affiches qui étaient dans les métros. C'était véritablement quelque chose d'absolument irritant. C'était de la publicité, bien sûr, mais la publicité, n'est-ce pas, cherche toujours ce qui va saisir, et par conséquent, elle ne se prive pas de heurter, de choquer même les choses les plus précieuses. Il a fallu même que l'on s'insurge, plusieurs associations, un certain nombre d'associations s'insurgent hautement pour faire cesser ce scandale, étant donné que la publicité s'était saisie même du Seigneur Jésus-Christ. Je dis que l'image est désordonnée, agressive, irritante, mais maintenant, elle a encore quelque chose de plus, c'est qu'elle est animée, animée, comme sera animée l'image de la bête. Elle est animée sur des écrans. Et le rôle de l'image va alors, dans cette animation, se manifester bien plus pernicieusement encore. L'image animée, c'est, elle veut être l'image de la vie, mais elle introduit sur toute chose des aspects salissants, souillants et mensongers. Elle travestit la vérité. Elle détourne la pensée de l'homme vers les idées et les objectifs qu'ont choisi les professionnels de l'image, de la projection ou de la télécommunication des images. Et alors, dans la pensée même des spectateurs assidus, Dieu est effacé de plus en plus. Sa révélation y est supplantée. Sa révélation qui devrait être là, au cœur de l'homme, vivante au cœur de l'homme, ardente, présente, elle y est supplantée par le vouloir humain. Une idolâtrie moderne est donc à l'œuvre. Et il n'y a plus liberté, mais il y a un nouvel enchaînement. J'ai dans ma bibliothèque un livre récent sur les masses médias et nous, c'est le titre du livre, Les masses médias et nous, où il est largement question de la télécommunication des images par la télévision. Eh bien, il faut lire ce que cet auteur, qui est un auteur catholique intégriste, mais qui se présente comme un homme qui a une connaissance, une certaine connaissance de l'Évangile. Il faut lire vraiment ce qu'il a discerné. C'est un homme d'assez haut savoir, et il a examiné, pesé, observé, discerné, et il faut voir ce qu'il dit sur les effets, nous ferions mieux de dire les méfaits, du petit écran. Oui. Chers amis, si je parle de cette question, ce n'est pas pour vous faire une loi, vous êtes libre, mais pensez à la chose. Je crois qu'il est nécessaire que vous pensiez à la chose. Vous pouvez être certain que lorsque vous aurez contracté des habitudes de spectateur du petit écran, eh bien, il est certain que la révélation de Dieu, avec tout ce merveilleux, tout ce qui est nécessaire au cœur, tout ce qui nourrit la foi, et qui nourrit l'amour des cœurs aussi. Tout cela s'effacera. Tout cela s'estompera. Vous pouvez être certain que vous ne pourrez pas rester l'homme des béatitudes. Ce beau portrait des béatitudes, vous ne pourrez pas le conserver. Une autre image viendra nécessairement se former sur votre cœur, qui ne sera pas l'image de Christ, qui ne sera pas l'image de l'homme des béatitudes. Vous pouvez être certain de ce résultat-là. Je sais que le petit écran a fait bien des progrès dans le monde de l'Église, je dis de l'Église évangélique, ne vais pas chercher ailleurs, je ne sais pas ce qui s'y passe. Mais dans le monde de l'Église évangélique, il a fait des progrès. Pour ma part, je dénonce cela comme un mal, et je ne suis pas le seul. C'est un mal, c'est quelque chose dont les chrétiens vont certainement pâtir, ce n'est pas douteux. Et peut-être que si aujourd'hui la ferveur n'est plus celle du réveil que nous avons connu, cet instrument n'y est pas étranger. Une idolâtrie moderne est à l'œuvre. Le monde, gouverné par Satan, est en train, bien entendu, et c'est là son travail, le monde gouverné par Satan, d'établir un esclavage. Et, bien entendu, celui des images, des idées et des systèmes idéologiques, philosophiques, qui ne se dénoncent pas, qui ne se désignent pas, mais qui sont là, qui œuvrent. L'esclavage des images, des idées et des systèmes. Et c'est cela ce à quoi travaille le monde. Et quand l'Antichrist sera là, il animera l'image de l'Antichrist. Beaucoup ont voulu voir qu'elle serait animée, cette image, par les écrans de télévision. Bon, moi, je ne précise rien. Pas moi qui ai dit cela, je ne précise rien, mais je sais que l'image de l'Antichrist sera, elle, animée. Et le faux prophète animera cette image. Pour que cette image, savez-vous quoi, eh bien, se forme, se projette sur les cœurs à la place de l'image de Jésus-Christ. Il faut dire ces choses. Il y aura bientôt la mondiovision. Je ne sais pas où ça en est. Je ne suis pas, moi, les techniques, de temps en temps, simplement, je capte une information, mais je ne sais pas où ça en est. La mondiovision, avec des Telstars, là, que sais-je, des satellites. Ils seront stabilisés sur un point pour l'émission sur le monde. Et vous pouvez être certain qu'il y aura là une diffusion cachée, voilée, de certaines idéologies, plus que des idéologies, des certaines philosophies. Cela n'est pas douteux. Nous avons, il y a quelques années, ici, pu répandre une certaine photographie de ce qu'on appelle le subliminal. Ça venait de bonne source, parce que ça venait de la revue Le Courrier de l'UNESCO. Le Courrier d'UNESCO, c'était l'UNESCO avait lui-même montré cela dans un numéro de sa revue avec photographie comme précisément une emprise sur les personnes humaines. Et je vous assure que dans l'UNESCO, on ne s'occupe pas du tout de l'Évangile, pas du tout. C'est plutôt orienté à rebours que du côté de l'Évangile. Eh bien, on avait montré cela. Et notre frère M. Venn avait fait des photographies de cela, on en avait donné à quelques-uns. Il montrait un film sur lequel, qui pouvait, susceptible de passer à la télévision, et un film sur lequel, toutes les 25 images, il y avait certaines notations, par exemple, blood, et puis une tête de mort. Cela revenait toutes les 25 images. Alors, l'œil ne le voit pas, n'est-ce pas ? Puisqu'il faut au moins 24 images par seconde pour qu'il y ait persistance de l'impression lumineuse sur la rétine. Alors, l'œil ne le voit pas, mais ça impressionne. Et c'est ce que disait ce courrier, cela sous la plume de gens autorisés, bien sûr, ça impressionne le subconscient. Ça impressionne le subconscient. Et chers amis, voilà un des dangers, ce n'est qu'un seul des dangers que nous courons. Mais si je vous dis ces choses, et je le répète pas pour vous faire une loi, mais je suis certain que notre second commandement s'est prolongé jusque-là. J'en suis certain. Il y a des gens qui m'ont dit, mais la télévision, elle n'est pas défendue dans la Bible. Et pas défendu de fumer non plus. Et pas défendu de se droguer. Mais lis ta Bible. Lis-la. Et lis-la avec l'esprit. Lis-la avec foi. Et tu verras. Tu verras ce que ton Dieu t'a demandé. Tu le verras. Dans le jardin d'Éden, où, vous savez, le serpent attira Ève. Hein, vous savez comment? Mais ce n'est pas par la parole seulement que Ève a été séduite. Voulez-vous que je vous dise comment elle a été séduite? Eh bien, au chapitre 3 de la Genèse. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Elle a été séduite par l'œil. Elle a été séduite par l'œil. Elle a vu, mes amis. Et ce n'est pas seulement par la parole. Une vue nouvelle de l'arbre, une vue suggérée, comme la télévision sait si bien suggérer des choses par la parole et s'appuyant par l'image, l'image animée, suggérer des choses. Et le diable, il a suggéré la vue de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout autrement, alors, la femme regarde cette... Ah, tiens, je ne voyais pas comme ça l'arbre. Elle le voit d'une toute autre manière. Elle vit, elle a été séduite par l'œil, chers amis. Et aujourd'hui, Satan sait très bien qu'il va se servir de l'œil, encore, pour faire pénétrer sa séduction jusqu'au fond des cœurs et troubler la révélation et la vision d'un Dieu d'amour. Troubler le salut que Dieu a donné à un si grand prix par Jésus-Christ son Fils. Troubler tout cela. Par l'œil. Et cela est extrêmement dangereux. La Genèse, en tout cas le second commandement, avait pressenti la télévision. Pour terminer notre second commandement, nous dirons quelques mots de ce que nous avons au verset 5 et au verset 6. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est-à-dire que la faute, en somme, des pères, parce que c'est d'abord aux pères que cela est dit, n'est-ce pas? Je suis l'Éternel, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères, l'iniquité des pères. C'est eux qui commencent l'iniquité. L'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Et dans l'iniquité, il y a l'idolâtrie. Il y a l'idolâtrie. Toutes les idées fausses, toutes les fausses représentations, tout cela. L'iniquité des pères, c'est pas seulement une iniquité morale. C'est une iniquité qui pervertit le fond du cœur humain. Alors, l'iniquité des pères sur les enfants. D'abord les pères, c'est à eux que le commandement s'adresse. Attention à eux, parce que ils vont conditionner leur descendance pour 3 ou 4 générations. Ce n'est pas que Dieu va concevoir un châtiment spécial sur des enfants qui, eux, peut-être, n'auront pas commis le même péché, mais c'est l'hérédité des mauvais penchants, l'hérédité des influences de l'exemple, et les influences de l'exemple, l'éducation, les marques imprimées sur les jeunes générations par les dires, par l'exemple. Les pères moule, oriente leur descendance. Et cela pour 3 à 4 générations. Certes, les fils peuvent rompre avec la disposition impie des pères, avec les idées que les pères leur ont léguées. Ils peuvent rompre, et nous avons vu cela, et nous avons vu que ceux qui viennent à Jésus-Christ, les jeunes qui viennent à Jésus-Christ, peuvent rompre avec un tas de choses. Bien sûr, peuvent rompre. Alors, le livre d'Ézéchiel au chapitre 18 nous montre bien que c'est celui qui a péché et qui sera puni. Mais il n'empêche que là, n'est-ce pas, les pères, par leur iniquité, orientent leur descendance vers le mal, et que ce sera beaucoup plus difficile. Et c'est ce qui se passe dans notre temps actuel. Les générations déjà, la génération d'avant, on peut dire même deux générations d'avant, la tendre jeunesse actuelle, ces deux générations déjà ont orienté, je dirais même trois générations, facilement, ont orienté cette jeunesse, et nous voyons, pour une bonne part, ce qu'elle est pour une grande majorité, hélas, ce qu'est la jeunesse, ce que sont ses aspirations. Tandis que Dieu fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. 1000 générations, c'est une succession infinie par rapport à 3 ou 4 générations, une succession infinie. Alors là, si les pères, eux, ont été fidèles à Dieu, si leur piété a été agréable à Dieu, elle aura été constructive, et ils auront inculqué, communiqué à leur descendance pour longtemps une magnifique direction. On ne le croit pas assez, ça, chers amis, on ne sait pas assez ces choses. Il faut y attacher toute notre foi, oui. Si les parents savent se comporter vis-à-vis de leurs enfants comme ils le doivent, ils vont d'abord les prémunir contre les 1001 dangers de ce temps, et puis ils vont les orienter. Et il y aura sur les enfants une bénédiction de Dieu. Dieu a en réserve une bénédiction sur cette descendance qui va beaucoup plus loin que la grandeur des temps qui nous sont impartis, parce que 1000 générations, ça dépasse de beaucoup le temps que nous avons, n'est-ce pas, et par conséquent, la descendance sera bénie.